Bonjour à vous, Jacques Meunier.
Bonjour Anne Lortoin.
Alors, dans votre journal des idées ce matin, l'entrée prochaine de Maurice Genevoix au Panthéon, elle a été annoncée hier par le président de la République. En cette semaine de célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre, celle de 14-18, ça sera l'occasion pour vous d'évoquer le regard porté sur cette guerre par les écrivains au front.
Oui, alors je cite « Combien de vos gestes passés aurais-je perdu chaque demain et de vos paroles vivantes et de tout ce qui était vous ?» écrit donc, pour conclure, Maurice Genevoix, l'auteur de Ceux de 14, il ne me reste plus que moi et l'image de vous que vous m'avez donnée, presque rien. Trois sourires sur une toute petite photo, un vivant entre deux morts, la main posée sur leur épaule. Les souvenirs de guerre de Maurice Genevoix ne seront publiés dans leur intégralité qu'en 1949 sous ce titre de Ceux de 14, d'où le regard rétrospectif en forme d'hommage à tous les disparus. Sur le site libération.fr, Christophe Forcari évoque l'après-guerre de ces témoins hantés par la mémoire. Maurice Genevoix entre à l'Académie française en 1946 et il en devient le secrétaire perpétuel en 1958. Roland Dorgelès publie les croix de bois en 1919, ces croix fichées en terre qui semblent guetter la relève des vivants. Il présidera l'Académie Goncourt. Tous deux incarnent cette figure de l'écrivain respectable, institutionnalisé. À l'opposé d'Henri Barbusse, compagnon de route du Parti communiste français, qui mourra d'ailleurs à Moscou en 1935, où il participait à la préparation du Congrès international des écrivains pour la défense de la culture. Dans son livre sur les écrivains et la politique en France, de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie, Gisèle Sapiro décrit l'émergence durant la Grande Guerre d'un genre littéraire nouveau, entre témoignages et engagements, rompant avec la tradition épique de l'héroïsme guerrier et du sentiment patriotique. Le modèle, c'est Le Feu, journal d'une escouade d'Henri Barbusse, qui paraît censuré en feuilleton avant d'obtenir le Goncourt 1916 et de connaître l'un des plus grands succès de librairie de l'époque. Marqué par la prééminence du vécu, la démystification de la guerre et de son absurdité, des romans désabusés diffusent une vision du monde pacifiste et leur recherche esthétique se caractérise par la quête d'un cadre de référence, d'un système éthique, afin de parvenir à penser l'événement. Dans le registre du réalisme, rien n'échappe à la plume acérée par l'événement. Le dialogue y occupe une place prépondérante, ajoute Gisèle Sapiro, épicé d'argot militaire dont l'effet comique tranche avec la description naturaliste, et souvent pittoresque, des conditions de vie bestiales, de l'insalubrité, des réalités physiques, de la mort, comme dans « Civilisation » de 1918, où Georges Duhamel rapporte en une peinture poignante son expérience des hôpitaux de l'arrière. C'est là, dans un hôpital de Nantes, où André Breton a été envoyé comme infirmier militaire, que Jacques Vacher fait sa connaissance vers la fin 1915. Cette figure mythique dont Breton fera le précurseur du mouvement dans son manifeste du surréalisme n'est alors qu'un jeune homme de 20 ans, animateur avant-guerre d'une éphémère revue de potage de génie intitulée en hommage à Verlaine « En route, mauvaise troupe », tout un programme. Jacques Vacher a été blessé par les grenades qu'il porte, explosé par une balle adverse. Avant de l'évacuer, on lui retire sur place les éclats plantés dans les jambes. Sans endormir, précise-t-il dans une lettre à son père, où il ajoute qu'il a tenu jusqu'au dernier éclat avant de crier. Mais quelle souffrance, écrit-il, vraiment, ceux qui se font couper la jambe en fumant une cigarette sont prodigieux. De fait, ce sont ces lettres qui constituent à la fois son récit de la guerre au jour le jour et le texte qui, publié par Breton en 1919, accède à la dimension littéraire de témoignages poétiques. Aujourd'hui, les éditions Gallimard les publient dans leur intégralité. Patrice Salin, qui en a établi et a noté l'édition avec Thomas Guillemin, insiste dans sa préface sur le registre lexical de ces lettres, commun à Apollinaire ou à d'autres poètes, qui tentèrent de restituer ce sentiment ambigu mêlant horreur et fascination face au spectacle de la guerre. À commencer par la boue des tranchées, cette sorte, je cite, cette sorte de mayonnaise tournée, très liquide et pas chaude, qui chante des bruits creux sous vous et qui change vos bottes en blocs de glaise. Les explosions d'obus, les marmites, dans le jargon de la troupe, c'était amusant de voir la tulipe énorme de feu soulever le sol et se changer en gros tire-bouchon de suie lourde sur le couchant. Une constante dans ses lettres, la distance que ménagent l'écriture et l'humour, que Jacques Vacher avait thématisé comme « humour sans H », lui qui était devenu interprète auprès du contingent britannique. « J'objecte à être tué en temps de guerre », disait-il quelque temps avant sa mort, en novembre 1918, des propos rapportés par Breton dans l'anthologie de l'humour noir. « Il avait 23 ans et la guerre allait nous le rendre », écrit Breton à Tristan Tzara en avril 1919. Le 6 janvier, une overdose d'opium devait l'emporter, celle qu'il désignait dans l'argot du front comme la « toufiane » et dont l'usage avait été généralisé par la pharmacie centrale des armées.